Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors nous allons ouvrir notre Bible et nous allons faire une lecture à découvrir ou à redécouvrir, ce qui est toujours un encouragement pour notre foi, notre confiance en Dieu. Alors prenons le livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît, et nous allons parvenir au chapitre 28. C'est une histoire qui nous relate les aventures, peut-être que c'est le mot qu'il faut utiliser, de cet homme qui était un évangéliste, un apôtre d'exception, l'apôtre Paul. Et nous allons le découvrir finalement eh bien, dans une situation qui nous parle de la foi, nous parle de sa foi, mais je pense que ça doit être la même chose, elle nous est commune aux uns et aux autres dans les moments de difficulté, lorsque nous nous questionnons et que nous sommes perplexes. Alors nous allons découvrir ce texte. C'est l'histoire de Paul lorsqu'il se trouve sur un bateau qui fait naufrage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, nous avions fait un message sur tout simplement cette histoire de Paul qui allait de la Palestine jusqu'à Rome, dont le bateau a fait naufrage, les naufragés de la foi, on pourrait dire. Mais à la différence, c'est qu'il y a toujours un salut de Dieu lorsque nous croyons passer par le fond ou que nous craignons d'y laisser notre vie. Dieu est là, il veille sur nous, nous sommes ses enfants. Alors il n'y a aucune crainte à avoir. Alors on va voir cette histoire, elle se poursuit à travers, quelque part, la fin de ce périple de Paul qui va faire naufrage et il va échouer sur une île que nous connaissons encore aujourd'hui puisqu'elle se situe au cœur de la Méditerranée, c'est l'île de Malte. Alors écoutez bien. Une fois hors de danger, verset premier, une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie était tombée et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ses gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent que c'était un dieu. Voilà. Alors, c'est une histoire de la Bible. Et par ce fait même, c'est une histoire vraie. Nous la tenons pour vraie parce que elle est là pour nous relater, c'est vrai, les épisodes de la vie tourmentée d'un homme, je l'ai dit, l'apôtre Paul, qui a été emmené contre son gré à faire cette traversée de Jérusalem, Césarée, jusqu'à la capitale de l'Empire romain, Rome, pour comparaître devant l'empereur. Ce sont des faits d'histoire, C'est pas une histoire qui a été brodée comme ça, mais ce sont des choses tout à fait authentiques. Et nous voyons qu'il va vivre avec plus de 275 ou 276 matelots sur ce bateau, des jours d'angoisse, des jours et des nuits épouvantables, parce que il y a une tempête qui les surprend et qui va déconcerter finalement à la fois le pilote du navire, le capitaine, l'armateur, Et ils vont en arriver à, dans ces derniers jours de navigation, avant que le bateau échoue, eh bien, à désespérer de sauver leur vie. Alors, on connaît l'histoire, vous la relirez, c'est au chapitre 27 de ce même livre. Vous pourrez le relire parce qu'il faut le remettre dans le contexte. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont échouer, le bateau va se briser en 1000 morceaux sur des rochers qui sont les rochers de cette île qui s'appelle Malte, et ils vont avoir la vie sauve. Le bateau va être détruit, la cargaison et tout ça, il ne restera rien. Mais les hommes sont saufs, c'est-à-dire que ils vont garder la vie. Et ils vont garder la vie en raison d'une chose. Et ça, je pense que c'est important, parce que ça aurait été peut-être une course maritime commune avec d'autres hommes, eh bien, ça serait passé probablement différemment. Ils seraient certainement passés par le fond, et ils auraient perdu la vie. Mais il y avait un homme, enfin, il y en avait quelques-uns. En tous les cas, Paul n'était pas tout seul en tant que chrétien sur ce bateau. Ils étaient certainement un petit nombre, mais ils étaient là. Et Paul, parce que c'est un homme de foi, a prié. Et il n'a pas prié pour lui seulement pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit arraché de la tempête, mais il a prié pour tous ceux qui étaient sur le bateau. Et nous pouvons dire que ces 273 ou plus, peu importe, plus ou moins de ces gens qui naviguent, vont être sauvés grâce à la foi et à la prière de l'apôtre Paul. Et là, ils vont arriver. Dans ce texte que nous avons saisi il y a un instant, il nous est dit qu'une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île sur laquelle ils venaient d'échouer, miraculeusement, eh bien, s'appelait Malte. Si aujourd'hui vous allez à Malte faire des voyages, eh bien, vous verrez que cette histoire que nous avons dans la Bible est omniprésente sur l'île de Malte. Alors naturellement, ça a été enjolivé, il y a là toutes sortes de monuments religieux, etc. Tout a été détourné en quelque sorte dans l'aspect religieux. Mais toujours est-il que c'est un fait d'authenticité, et on s'aperçoit que c'est surtout cette phrase qui est quand même assez intéressante, il nous est dit « une fois hors de danger ». On pourrait souffler, on pourrait dire « bien, merci Seigneur ». Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de difficulté. Nous sommes sains et saufs. Et je pense que dans le cœur d'un chrétien, d'un croyant, lorsqu'il échappe finalement à un péril, la première chose qu'il peut finalement et qu'il doit, je crois, et spontanée même, c'est de faire marcher la mémoire de son cœur. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est la reconnaissance. Et de dire merci Seigneur, parce que tu m'as arraché à quelque chose qui était inéluctable, c'est-à-dire nous allions mourir finalement, noyés dans cette tempête, dans ces circonstances, une fois hors de danger. Alors, il y a quelque chose qui est très touchant dans ce récit qui nous est rapporté par Luc, puisque c'est lui, celui qui a écrit. Me semble-t-il que Luc devait être aussi sur le bateau, il me semble. Mais bon, toujours est-il qu'il devait être témoin oculaire de ce qui s'est passé. Et puis, dans la deuxième phrase qui suit, il nous est dit que les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Alors, je vous expliquais, les barbares en question, ils n'ont ni plumes, ils n'ont pas de totem, ils n'ont pas de grimoire ou toutes sortes de choses sur le visage, c'était des hommes comme les autres. Mais on appelait barbares, dans ces temps de l'Antiquité, les hommes dont on ne comprenait pas le langage, donc la langue, ceux qui ne parlaient pas soit le grec ou soit le latin, et qui faisaient que c'était des barbares, comme on pourrait dire aujourd'hui lorsque nous entendons des langues étrangères, mais par déférence, on ne dit pas que ce sont des barbares, on dit qu'on ne connaît pas la langue tout simplement, mais à l'époque c'était comme ça, voilà, ce sont donc des gens qui ne parlaient pas, je l'ai dit, les langues inconnues, répandues à l'époque, langues internationales comme notre anglais aujourd'hui, nous pourrions dire, puisque ça focalise finalement, pour les affaires, le commerce, etc., etc. Alors, ces hommes, quand ils ont vu des naufragés, au lieu peut-être de faire comme ça s'est fait pendant des siècles, quand il y avait un naufrage, il y avait les pilleurs sur les côtes de Bretagne, pendant des siècles et siècles. Alors que les malheureux, quelquefois, étaient projetés sur des écueils, on venait faire la curée, vous comprenez? Ça, c'est très connu, sur les côtes. Alors, bien sûr, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais on venait finalement, eh bien, voler toute la cargaison du bateau. Et puis, quelquefois, eh bien, quand il y avait des gens qui voulaient se défendre, eh bien, on les mettait à mort. C'était quelque chose d'affreux. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que là, encore une fois de plus, hors de danger, alors qu'ils auraient pu être accueillis dans cette époque reculée de l'Antiquité, avec la sauvagerie et tout ce que vous voulez, eh bien, il nous est dit qu'ils ont été reçus, ces naufragés, avec une bienveillance peu commune. Parce que peut-être que, étant hors de danger, ayant touché terre, mais maintenant il fallait faire avec la population qui était là. Et de quel accueil? Et les gens de Malte, donc les Maltais, eh bien, ont recueilli les naufragés avec beaucoup de commisération, de compassion, et ils leur ont offert, finalement, l'hospitalité. Alors, c'est pourquoi les choses sont dites de cette manière. Ils ont été recueillis, Paul et puis tous ses compagnons, ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Vous reconnaissez que le naufrage a eu lieu dans une période avancée de l'hiver. Normalement, le bateau n'aurait pas dû quitter le port de Césarée. Des semaines et des semaines auparavant, le texte de chapitre 27 nous le dit. Ils se sont crus maîtres de leur sort parce qu'un vent favorable les portait dans le bon sens. Mais c'était pas un vent favorable, c'était un vent qui faisait l'illusion que c'était un vent favorable. Et c'est comme ça que, n'écoutant que leur expérience ou leur propre sagesse, eh bien ils sont allés au naufrage. Et on reconnaît que, dans ces circonstances, il y avait probablement une grande détresse, parce que ça faisait des semaines, des jours et des jours, hein, que ces matelots, ces gens qui voyageaient sur la mer, étaient ballottés jour et nuit et... peut-être ne prenant pas de nourriture, ils étaient profondément malheureux, ils étaient à l'extrémité. Je voudrais quand même vous dire une chose, et je le rappelle, c'est que très souvent, et c'est pour cela qu'il ne faut pas perdre nos moyens et notre confiance en Dieu, que très souvent, Dieu intervient au dernier moment pour nous secourir. Lorsque parfois, eh bien, nous n'avons plus d'espoir, que la lumière commence à s'éteindre et on se dit « c'est fini pour moi ». Ça, c'est faux. Si vous lisez la Bible, vous verrez que dans toutes les circonstances, ou très souvent dans les circonstances, Dieu intervient in extremis, mais il intervient. Et le miracle est d'autant plus grand. Pour marquer l'homme que ce n'est pas lui qui s'est sauvé, que ce n'est pas l'homme qui s'est sauvé par ses moyens, par son agilité, par ses gesticulations, ou par tout ce qu'il peut se donner comme moyen pour se raccrocher aux branches et garder la vie, mais qu'à ce moment-là, lorsque... Eh bien, finalement, tout espoir que la nuit est la plus sombre, Dieu vient et il fait briller sa lumière pour nous sauver et nous délivrer. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous vous souvenez des disciples sur la mer de Tibériade? Le Seigneur savait très bien qu'il y avait, finalement, eh bien, l'océan, enfin, pas l'océan, mais le lac qui était en tempête, en plein tourbillon. Et il n'est pas venu les secourir à la première veille. Il n'est pas venu les secourir à la deuxième veille ou la troisième veille, il est venu les secourir à la quatrième veille, c'est-à-dire au petit matin, alors qu'ils étaient épuisés et qu'ils désespéraient d'être sauvés. Et le Seigneur est venu les délivrer, il les a délivrés, puisque le texte nous dit qu'ils ont fait l'expérience d'un miracle, d'un prodige, parce que Jésus a calmé le vent et la mer et les a ramenés finalement sur le rivage, sains et saufs aussi. Alors ils ont été donc recueillis, et ces gens, ces soi-disant appelés barbares, ont allumé un feu parce que ces pauvres malheureux naufragés étaient transis. Ils avaient froid, ils avaient probablement faim et ils avaient besoin d'un réconfort peut-être avant d'être emmenés, eh bien là au cœur de l'île, dans les maisons et dans les habitations, là où ils pouvaient être, eh bien, en sécurité. Et voilà qu'il va y avoir une circonstance assez particulière qui va, eh bien, nous surprendre. On a dit tout à l'heure, une fois hors de danger, ils ont été accueillis favorablement par ces soi-disant barbares, avec bienveillance. Et puis écoutez la suite. Paul, celui qui est, on pourrait dire, l'homme par lequel le salut de Dieu est venu à tout ce navire, et tous ces hommes ont été sauvés grâce à la foi et à la prière de l'apôtre Paul. Paul n'est pas en reste. C'est un homme pratique. À ce moment-là, voyant toute l'infortune de ses compagnons, va ramasser un tas de broussailles et il va le mettre dans le feu. Et à ce moment-là, une vipère, nous est-il dit, en sortit par l'effet de la chaleur et s'attachait à sa main. Vous savez comment ça s'appelle? c'est se faire mordre. On est d'accord. Alors, on se dit, mais c'est bizarre tout cela. Après avoir vécu des jours d'angoisse sur la mer en furie, après avoir connu la délivrance en atteignant un port favorable, Malte, et être sauvé, voilà que le malheur va frapper tout à nouveau, et tout simplement par une circonstance dont personne n'aurait pu imaginer et penser, en ramassant des broussailles, il y a une vipère, certainement endormie par la froidure, par le climat de cette saison, et à ce moment-là, Paul ramasse la brassée, et il va s'apercevoir en l'approchant du feu qu'il y a une bête, et cette bête va le mordre, tout simplement, eh bien là, au poignet, à la main, tout simplement, c'est ce qui nous est dit. Alors c'est curieux, parce que je voudrais quand même aller un petit peu plus loin dans notre réflexion ce soir. Il est question d'un serpent. Bon, je pense que nous sommes les amis des serpents, hein. On aime bien ces petites bêtes, n'est-ce pas ? À vous faire frémir, hein. Je pense que il y a quelque chose de viscéral chez un homme normalement constitué, c'est quand même que ce sont des animaux qui provoquent la répugnance. Bon, je vous ne dirai pas pourquoi, enfin, nous le savons, les uns et les autres, je pense que ce n'est pas un animal de compagnie, hein. Quelquefois, il m'est arrivé de voir des reportages où certains élèvent, mais pas des couleuvres, mais véritablement des dangers mortels dans leur maison. Vérifiez bien si vos voisins n'ont pas un crotal, non, je n'aurais pas vous empêcher de dormir ce soir, hein, ou une vipère du Gabon, par exemple, hein, ou d'autres choses de semblables. Vous savez, c'est long, hein, ça n'a pas de pattes, et ça fait pas de bruit. Ça va ? Le serpent est un animal emblématique qui a toujours accompagné l'homme depuis l'histoire du Jardin d'Éden, d'accord ? Parce que quand vous lisez le chapitre 3 du livre de la Genèse, ça commence par le serpent, qui était l'animal le plus rusé de toute la terre. C'est terrible. Et quand vous allez à la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, il est encore parlé du serpent, mais à une différence. Il y a au départ le serpent séducteur, et à la fin, il y a le serpent vaincu. Et au milieu de la Bible, ce qu'on appellerait le milieu, c'est-à-dire l'Évangile, il y a là, finalement, la victoire du bien sur le mal, la victoire de Dieu sur, eh bien, ce serpent, à travers, tout simplement, celui qui l'a vaincu, c'est-à-dire Jésus-Christ, et cela à travers une croix, à travers le sacrifice de sa propre vie. Parce que pour vaincre ce serpent, il fallait que quelqu'un meure, non pas par une morsure, mais par une flétrissure, par des souffrances indicibles, à travers la crucifixion. C'est toute l'histoire de la Bible que je suis en train de prendre en diagonale, hein, en quelque sorte. Alors, le serpent a toujours été l'image emblématique dans la Bible, mais l'image du péché, l'image du mal, l'image de la corruption, l'image de quelque chose qui donne la mort. Et Paul va se faire mordre. C'est un homme, Paul. Et parce que c'est un homme, il est en danger de mort. Et on sait très bien qu'un serpent, en état de léthargie, son venin peut-être est quelquefois beaucoup plus toxique que lorsque, eh bien, c'est la période de la chaleur, de l'été. Parce que bon, il évacue son venin. Mais là, il est beaucoup plus toxique. Paul est entre la vie et la mort. Vous avez remarqué avec moi, il nous a dit, une fois hors de danger. Non. Paul pouvait dire, eh bien, maintenant, ça y est, c'est fini pour moi, c'est terminé. Il n'était pas hors de danger, au contraire, il était au cœur du danger. Alors, ça, c'est-à-dire, Et puis, je reviens à notre serpent. Il y a deux sortes sur la terre de serpents. Il y a les serpents contricteurs qui vous embrassent et qui vous serrent tellement fort que vous ne pouvez plus vous en dépêtrer. Et puis, il y a les serpents à venin. Et là, c'est autre chose, hein, qui provoque des lésions, des altérations, qui provoque quelque chose de, une destruction, peut-être parfois au niveau des poumons, au niveau de cérébral, toutes sortes de choses. C'est quelque chose d'abominable. C'est terrible. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a des années, on était jeunes mariés avec mon épouse. Il y avait une exposition à Angers de serpents. Et puis, c'était une exposition assez conséquente. Et puis, bon, la curiosité nous avait poussé à regarder un petit peu. On était rentrés, on avait vu. Et il y avait toutes sortes de serpents qui étaient là exposés. Puis, il y avait marqué, attention, hein, il expliquait un petit peu la bête. Et puis, tous les dangers. Et je me souviens, j'aurais pas dû le faire, hein, mais je me souviens, m'étant deux ou trois fois approché ma main de la glace comme ça, tout de suite, hein, c'était immédiat, hein, comme ça, le dos des doigts, comme ça, de la glace, ah, dites donc, c'était, et avec le venin qui coulait sur, je suis pas mort, hein, je suis pas mort, et surtout que c'était recommandé, que c'était des serpents extrêmement venimeux. Mais pour vous dire, que j'ai été protégé, j'avais la foi à l'époque, hein. Mais j'ai été protégé à travers, oh, je vous dirais, 5 mm de glace. Ouais, ça suffisait. Il a dû se casser la dent, hein. Ce qui y était, hein. Je l'ai fait deux ou trois fois comme ça. Heureusement que le patron n'était pas à me regarder parce que, hein, bon, c'était pas des choses à faire, hein. Mais c'était pour tester. Vous comprenez, voir un petit peu ce que ça donne, hein. C'est une rapidité, c'est d'une agilité, c'est incroyable, ça saute, et ça mord. Alors, c'est une expérience. Parce que, il y a quelque chose qui caractérise cet animal, c'est la ruse. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit que le serpent était l'animal le plus rusé de toute la terre. Il ne fait pas de bruit. Il rampe, il se faufile, il se dissimule. Il est capable de changer sa peau ou de changer sa couleur pour finalement, eh bien, exercer sa tromperie. Parce que c'est un animal sournois. Vous voyez bien de qui je veux parler ? Le contraire de Dieu, le contraire de la lumière, le contraire finalement de la mort, enfin de la vie plutôt, hein ? Le diable, Satan, il nous est décrit sous une forme matérialisée de cet animal, mais il est là. Et on pourrait se dire que dans l'affaire de Paul, sauvé du naufrage, ayant été recueilli sur cette île, hors de danger, non, il n'était pas hors de danger, parce qu'il y avait le sournois, parce qu'il y avait le trompeur, parce qu'il y avait celui qui s'était dissimulé dans ses branchages, et d'une manière tout à fait inconsciente, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, a pris ses broussailles, et là, à ce moment-là, il les a jetées dans le feu, et le serpent l'a mordu. Mordu. En lui instillant un poison mortel. Parce que derrière, il y a un venin. Comme le péché est un venin. Comme le mal est un venin. C'est la Bible qui nous le dit. Il nous est même dit que les hommes sont morts à cause de cette morsure. La morsure originelle. Et Dieu s'est précipité pour apporter un remède, pour apporter une solution, pour apporter un secours. Les hommes de notre temps devraient lire la Bible pour trouver des solutions à leurs problèmes et à leur empoisonnement, tant physique de la maladie, tant moral dans des états d'angoisse ou des états d'inquiétude mortelle, ou trouver peut-être aussi des solutions à tous les questionnements, toutes les perplexités d'ordre spirituel, parce que les réponses se trouvent là, le remède de Dieu se trouve dans la Bible, il se trouve en Jésus-Christ, et il se trouve dans la foi. Tout simplement, notre confiance, et vous allez voir que ça fonctionne, ce venin qui laisse si peu de traces après la morsure, deux petites empreintes, tout simplement un peu rougissantes, mais c'est passé dans le sang. Ça va jusqu'au cœur, jusqu'à temps que le poison fasse son effet C'est terrible. Ça va, je ne vais pas vous empêcher de dormir? Non, non, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, vous ne craignez rien. Jésus l'a dit, ne craignez rien. Et bien précisément, justement, ne craignez rien de ce venin, parce que je voudrais quand même vous dire ce que Jésus nous recommande. Vous allez redécouvrir avec moi, écoutez bien cette parole. Les 70 revinrent avec joie en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom !» Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc le diable vaincu, le serpent ancestral, piétiné, écrasé, neutralisé, sans aucune capacité de faire de mal à l'homme qui croit en Dieu. Je voyais donc Satan tomber du ciel comme un éclair. Et Jésus donnera à ses disciples, pas à ceux qui ne croient pas, pas aux autres, pas aux incrédules, mais à ceux qui croient en lui, il dira ceci, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et Jésus ajoute cette parole, et rien ne pourra vous nuire. » Mes amis qui écoutez cette parole, je voudrais répéter ces mots que Jésus a laissé à ses disciples d'hier, comme à nous aujourd'hui, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra nous nuire si nous gardons la foi en Jésus-Christ. Et si nous ne nous laissons pas influencer, intimider, nous amener à faire marche arrière en raison de la peur et de la crainte. Parce que le diable est le spécialiste de nous faire peur et de nous donner la crainte et de susciter des angoisses, comme le serpent, quelquefois que nous rencontrons sur un chemin, nous remplis de frayeur et de peur. Moi, j'ai peur des serpents. Hein. Sauf le jour où je les ai caressés à travers la vitre. Mais je suis à peu près sûr de moi, là. Hein. Oui, ça fait peur. Et le but du diable, c'est justement de nous donner des frayeurs, de nous donner des coups de cœur. Et quelquefois, il y a des attaques sournoises, des attaques de tromperie qui nous viennent comme ça, comme Paul à travers la broussaille, qui nous arrivent de droite, de gauche, à travers... Et à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible. Comment, Seigneur, tu as permis? Comment, Seigneur? Mais le Seigneur nous dit, je l'ai permis parce que c'est moi qui vais te délivrer. Et tu n'as rien à craindre. Je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors c'est pas pour ça que maintenant, faut aller traîner dans les bois et puis taper là en disant, j'écrase tous les serpents que je... Ils vont pas rester là, hein, vous t'inquiétez pas. Pas de provocation parce que c'est plus la foi, c'est de la témérité, d'accord? Voilà. La foi, c'est véritablement notre délivrance, la foi en Dieu. La délivrance, disons quelques mots. Vous savez que dans l'histoire biblique, la sortie des Hébreux du désert, il y a eu ce phénomène des serpents brûlants qui étaient dissimulés dans le sable et qui avaient été neutralisés par Dieu. Tout un temps, toute une période. Mais à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu s'est retiré, et à ce moment-là, les serpents sont apparus, et ils ont mordu le peuple d'Israël. Et il y a eu probablement des dizaines et des centaines de personnes qui sont mortes par la morsure du serpent. C'est un épisode qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Lisez-le, vous verrez, c'est très intéressant, et je ne m'étends pas là-dessus. Mais Moïse avait reçu ce commandement de Dieu, pour sauver le peuple de la morsure et de la toxicité du venin, il avait reçu cet ordre. Dieu lui avait dit, Moïse, tu vas te construire une perche. Comme une forme de croix, en quelque sorte. La croix avant la croix. Et au-dessus de cette croix, tu mettras un serpent d'airain, un serpent en bronze. Tu vas te forger un serpent et tu le mettras. Et il avait donné cet ordre. Quiconque aura été mordu par un serpent, à cette circonstance dans le désert, à la sortie d'Égypte, regardera dans la direction de la perche, eh bien, ce regard lui sauvera la vie. Alors, il y avait des gens qui, dans cet effroi de devoir mourir, se sont tournés, ils ont peut-être invoqué Dieu en disant, mais nous croyons à cette parole. Et tous ceux qui ont pu confesser qu'ils croyaient à cette parole dans cet acte, dans cette croix qui avait été élevée, était guérie. Et puis il y avait d'autres qui, certainement, rigolaient dans leur barbe, en pensant que les Hébreux avaient tous des barbes, sauf les femmes, naturellement. Mais quand ils regardaient, ils disaient, certainement pas, c'est des histoires, mais Moïse est en train de vous raconter des falaises, Alors surtout, n'allez pas regarder des histoires. Vous ne pouvez pas être guéri avec une chose pareille. Eh bien, tous ceux-là qui refusaient de regarder, eh bien, ils mouraient. Ceux qui regardaient dans la direction de la perche étaient guéris. Ceux qui refusaient mouraient. C'est ce qui nous est dit dans Nombre, chapitre 21. Qu'est-ce que nous dit Jésus lorsqu'il envoie ses disciples dans l'évangile que l'on appelle l'évangile de l'ascension? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il nous est dit qu'ils chasseront les démons. Et ils saisiront des serpents et cela ne leur fera pas de mal. Alors c'est pas certainement quelque chose à faire témérairement. Mais combien de rapports de missionnaires avons-nous entendus? Je me souviens qu'un missionnaire était passé il y a quelques années dans l'église où nous étions auparavant et qui nous avait raconté une très belle histoire. Ça devait être au Burkina Faso. Et il était là en pleine brousse et il y avait des bêtes, il y avait des serpents. Ils étaient en train de creuser, je crois, pour faire un barrage d'eau. Et à ce moment-là, il était mordu par une vipère d'une extrême virulence. Et le dispensaire était à peu près à 300 kilomètres. Je peux vous dire qu'il y avait temps de mourir, hein. Donc il n'était pas question. Et ce missionnaire nous racontait qu'il n'y avait qu'une chose à faire, parce qu'il était missionnaire, et c'était un homme de foi. Il a dit, Seigneur, si tu n'interviens pas dans quelques heures, je vais mourir. Et il s'est souvenu de ce texte. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, ils saisiront des serpents et il leur fera aucun mal. Ou si les serpents, finalement, eh bien, les touchent ou les mords, ça ne leur fera aucun mal. Et c'est par la foi que notre frère a été sauvé. Tout simplement. Et il y en a d'autres des histoires comme ça. Parce qu'ils étaient là dans une situation où il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait qu'à crier à Dieu et Dieu a entendu cette prière de délivrance. Oui. Ils imposeront les malades et les malades seront guéris. C'est la même phrase, hein. C'est dans le même texte pour nous montrer que c'est une réalité encore aujourd'hui que Dieu est encore capable de délivrer. Et puis, qu'est-ce que nous dit Pierre également à propos de cet ennemi, de ce serpent? Je vous ai donné tout à l'heure l'image, la projection que il était là, eh bien, l'image du mal, l'image du péché, l'image de la corruption. Et qu'est-ce qui nous est recommandé également par rapport à cet emblème? Il nous est dit, soyez sobres, veillez, faites attention. On ne fait pas n'importe quoi avec notre vie. On ne marche pas n'importe où. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alors il se déguise tantôt en serpent ou tantôt en lion. Il se déguise, cherchant qui il dévorera. Mais le conseil qui nous est donné est le plus important. Il nous est dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Et Paul, dans ces circonstances qui nous entretient, eh bien, pouvait dire, mais nous sommes maintenant hors de danger. Et voilà que le danger revient. Et Paul n'a pas cédé à la peur. Il n'a pas cédé à la panique. Il savait très bien ce qu'il pouvait faire. Il avait un Dieu qui l'avait vu tellement agir pour les autres. Dieu, ce Dieu-là, pouvait aussi agir pour lui. Et nous voyons qu'il a tenu ferme dans la foi et nous-mêmes, en marchant dans la foi, nous pouvons être attaqués traîtreusement, nous pouvons être attaqués par derrière, nous pouvons avoir toutes sortes de bouleversements dans notre vie, toutes sortes de reprises, de remises en cause. Mais je pense qu'il faut lui résister avec une foi ferme. Et on ne cède pas. C'est notre foi qui va faire la différence. On ne cède pas à la peur ni à la panique. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. C'est ce qui s'est passé. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. » Raisonnement puéril, raisonnement primaire, s'il en est. Parce que ils se disaient, ces gens, que si ces hommes, et si cet homme, entre autres Paul, eh bien, avait été parfait d'exception, retiré du naufrage et que maintenant il était mordu par une vipère, c'est que finalement les dieux, je dis bien les dieux au pluriel, hein, parce que c'était l'Antiquité, hein, eh bien finalement, eh bien voulait véritablement que cet homme meure parce que c'était un meurtrier. Ça le désignait comme un meurtrier alors que Paul n'a jamais tué personne. Vous savez, quelquefois les gens, pour juger des choses spirituelles, ils sont très rapides, hein, et ils coupent à travers champs, hein. Je peux vous dire que c'est très primaire. On se dit, bien voilà, celui-ci, il est puni, bah, c'est parce que finalement, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein. Mais Dieu ne voulait pas la mort de Paul. Au contraire, il voulait la vie. Et cette circonstance de cette morsure de serpent va donner à Dieu l'occasion, finalement, de démontrer qu'il est tout puissant pour délivrer ceux qui espèrent en lui et ceux qui lui font confiance. C'est ça, la grande différence. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui portons des jugements à l'emporte-pièce parce que nous en tirons la déduction que il arrive ceci, il arrive cela, eh bien, automatiquement, eh bien, c'est une sanction ou une punition de Dieu. On peut avoir des grandes surprises, hein. Moi, je ne suis pas partisan de ce raisonnement, hein. Parce que, vous savez que le Seigneur est venu sauver même les meurtriers et les plus grands coupables. Maintenant qu'il y ait des fêtes qui nous dépassent, ça c'est autre chose. Mais n'épiloguons pas sur ce que nous ne connaissons pas. Et les gens du lieu, là, ils se montrent en barbares, en quelque sorte. Ils vont dire, eh bien, cet homme, assurément, s'il a été sauvé du naufrage et que maintenant il est mordu par une vipère, eh bien, c'est que la justice, qui personnifie finalement les dieux de l'époque, les dieux de l'Antiquité, n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Et vous savez, ce sont les défis subtils que le diable nous envoie. Nous, qui croyons au Seigneur, nous qui sommes les disciples de Jésus, nous qui sommes des chrétiens, quelquefois, eh bien, Dieu nous porte et il nous fait faire des expériences extraordinaires, formidables. Et le diable nous dit, tu vas voir. Tu vas voir, moi je vais remettre tout en cause. Je vais te mordre. Je vais t'envoyer une morsure qui va te faire ébranler dans ta foi, qui va te rendre malheureux, qui va te faire douter de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit le dernier mot, hein. Combien de fois nous avons été mordus de cette manière, après avoir été sauvés, et puis de dire, eh bien voilà, nous sommes retombés. Et puis, de penser que Dieu nous abandonnait, comme le serpent sait très bien nous le dire en disant, mais tu sais ton Dieu, hein. Il est pas vrai, hein. Il ne t'aime pas. Puis même, est-ce qu'il existe ton Dieu? Vous savez, c'est toujours ce venin qui distille le doute, la crainte et la peur. On l'a décrit tout à l'heure, le serpent, hein. Eh bien, c'est bien cela. Alors on se dit, mais Seigneur, je sais plus où j'en suis rendu. Tu m'avais donné ceci, tu m'avais fait cela, tu m'avais délivré, tu m'avais guéri, tu avais fait ceci et cela dans ma vie. Alors moi, je ne sais plus où j'en suis. Mais écoutez la suite, parce que la suite est très intéressante. Et moi, je dis que quand on est enfant de Dieu et que l'on a confessé le nom de Jésus, eh bien, le Seigneur est là notre protection et il sera notre protection jusqu'au bout et nous n'avons rien à craindre. Et ça, il faut le savoir. Parce qu'il y en a un qui voudrait nous faire vaciller, qui voudrait nous faire capituler, nous faire tomber tout à nouveau, en reniant Dieu. C'est l'histoire de Job, n'est-ce pas? Alors, c'est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Voilà. Qu'est-ce que fait Paul? Visiblement, dans les mots que nous avons devant nous, il n'a pas l'air de s'être affolé, hein. Même s'il a eu une émotion intérieure, mais il ne l'a pas montré. Parce que quand on se fait mordre par un serpent, il doit y avoir quelque chose, un frémissement, quelque chose de terrible, hein. On peut se dompter. Paul secoua l'animal dans le feu, et d'une manière tellement simple, et il ne ressentit aucun mal. Tout simplement. Alors comment expliquer ça? Ben, la seule explication, c'est que Dieu est au-dessus du mal. Dieu est le souverain. Dieu est le prince en son royaume, et un royaume de bien, un royaume de grâce, un royaume de miséricorde et d'amour. Et il n'a ressenti aucun mal, Paul, et il a secoué l'animal. Mais c'est le regard des autres. Ces hommes s'attendaient à le voir enfler. Vous savez, comme la grenouille. Eh oui, le petit bibendum Michelin, vous connaissez aussi. Hein. Voilà. Il s'attendait à le voir enfler. Il enfle pas. C'est pas normal. Vous vous rendez compte? Quand on se fait mordre par une vipère, on a quand même un bras comme ça, hein, et puis on commence à avoir des toutes sortes de phénomènes. Ou alors, s'il n'enfle pas, il va tomber reine mort d'un seul coup, hein. Tout simplement. Tomber mort subitement. Mais écoutez la phrase, parce qu'elle est pleine d'ironie. Il nous est dit « Mais après avoir entendu longtemps, ou longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent que c'était un dieu. » C'est pas beau ça comme histoire? Extraordinaire! Ils ont attendu, parce que vous savez, le douteur ou l'incrédule, il veut des preuves. Il veut des preuves. Le croyant, il croit et il ne doute pas. D'accord? Il fait confiance à Dieu. Seigneur, tu vois, je me suis fait mordre par une vipère. Alors, il y a peut-être une petite inquiétude quand même, hein, parce qu'on est un homme, tout simplement. Mais Seigneur, dans la nature et selon la nature, le principe de la nature, normalement, je devrais être malade maintenant. Je devrais être vraiment, certainement, au centre antipoison, c'est pas possible. Rien du tout, dites donc. Il ne se passe rien. Parce que vous savez, le miracle avec Dieu, il se manifeste quand il se passe quelque chose, et le miracle de Dieu, il est encore plus grand quand il se passe rien, qu'il devrait se passer quelque chose. Ça, c'est formidable, vous comprenez? C'est comme l'histoire de David, pas David, mais Daniel dans la fosse aux lions, il ne s'est rien passé. C'est comme les amis de Daniel, quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, il ne s'est rien passé. Et c'est ça le miracle. Parce qu'on a une idée préconçue que le miracle de Dieu, c'est quand il se passe quelque chose de tonitruant, qui déchire les cieux, etc. Extraordinaire. Mais le miracle de Dieu, c'est quand il se passe rien. C'est le miracle, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Moi, j'aime bien dire ça, parce que il y a des gens qui ne vivent qu'avec le miracle sensible. Oh, Seigneur, ouh, brrr, je sais plus où j'en suis. Eh ben, vous savez, on a vécu, hein, des expériences extraordinaires dans notre vie de chrétien, parce qu'il ne se passait rien. Ouais. Et on était bien content qu'il ne se passe rien. Parce que si on était en attente qu'il se passe quelque chose, ça aurait été terrible pour nous. Mais le Seigneur avait calmé le jeu. Il avait enlevé l'aiguillon de la mort, du mal. Il avait retiré le croc du serpent. Et le venin n'avait plus d'effet, tout simplement. Alors, ils ont attendu. Ils l'ont regardé. Ils devaient le regarder tourner autour de Paul. « Ça va, Paul, tu te sens bien? Tu n'as pas froid? Tu n'as pas chaud ?» Paul devait dire « Probablement non. Enfin, je suis en train de... » D'accord. Mais... je le dis pour parce que c'est quand même une vérité. C'est un petit peu caricaturé, caricaturé. C'est bien, d'accord. Vous me souriez, ça doit être vrai. Alors, un petit peu l'attitude des hommes, vous comprenez, l'homme incrédule. Alors, ils ont attendu, ils ont vu qu'il ne se passait rien. Alors, comme l'homme est tellement versatile, vous savez ce que c'est la versatilité? On change d'avis comme de chemise. Alors, à ce moment-là, comme ils n'avaient rien, il ne se passait rien, ils changèrent d'avis, et ils dirent, « Ah, oh, mais cet homme, c'est un dieu !» Et ça, ça devient aussi dangereux que son contraire. Comme à Lystre, vous savez, ce qui s'est passé à Lystre, quand ils ont pris Paul et Barnabas, l'un pour Jupiter et l'autre pour Mercure, et au bout d'un certain temps, comme ils se sont défendus d'être adorés, ils ont voulu les lapider, ils ont voulu les tuer, vous rendez compte? Parce que vous savez, quand on est sur le registre de l'adoration des idoles, un moment ou un autre, l'idole, eh bien on la détruit. Vous comprenez? Parce que la foi, la vie avec Dieu, ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est précisément son contraire. Ceux qui adorent Dieu, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui croient en Dieu, ils croient en Dieu en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de démonstration, on n'a pas besoin de ceci et cela, d'avoir des preuves. Dieu nous dit, et ça nous suffit. Et Paul, dans cette situation, Dieu lui avait dit qu'il irait jusqu'à Rome. Il lui a pas dit comment il irait jusqu'à Rome, en passant par un naufrage, en se faisant mordre par une vipère. Ça, c'était au programme. Mais Dieu lui avait dit, tu iras à Rome et tu comparaîtras pour mon nom devant l'empereur. Eh bien, il y est allé. Il y est allé sain et sauf. Et Dieu, quand il prend en main notre vie, nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est là. Tant que notre mission n'est pas finie, le Seigneur nous accompagnera. Je termine. Dans Jean. Écoutez bien. Je finis, hein. Jean chapitre 3, versets 14 et 15, écoutez. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Voilà la conclusion. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire du livre des Nombres. Les Hébreux qui avaient été mordus par les serpents qui étaient enfouis dans le sable. Et que, à ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, tu vas te faire une perche et tu vas mettre un serpent d'airain dessus. Et quiconque regardera le serpent sera sauvé. Celui qui ne voudra pas regarder, eh bien, il mourra par refus de croire à la promesse de délivrance. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est Jésus qui dit ça. Hein? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est mort pour que nous soyons délivrés du mal, que nous soyons délivrés du péché, que nous soyons délivrés du serpent, que nous soyons délivrés de son venin, que nous soyons délivrés de toutes sortes de choses qui peuvent nous atteindre, parce que les chrétiens ne sont pas exemples, finalement, de toutes les conditions humaines qui sont propres, finalement, eh bien, à l'humanité, c'est-à-dire la maladie, l'accident, et puis toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est à nos côtés. Le Seigneur est avec nous et c'est lui qui nous délivre. Afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. La vie maintenant, la vie en bonne santé, la vie épanouie, la vie de liberté, la vie dans l'abondance, pour que nous puissions en rendre grâce à Dieu, mais une autre vie, qui est celle, eh bien, qui nous est préparée. Parce que vous connaissez la suite, hein, vous pouvez le citer, hein, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, ne soit pas détruit. Et qu'il est la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. On garde ça pour nous, mais on le répète à tout le monde. D'accord? Allez, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est merveilleuse. Oui, Seigneur, le message. C'est un message qui traverse les temps, les époques. Le nom de Jésus-Christ est une formidable espérance pour les hommes du monde entier, les hommes d'hier, les hommes d'aujourd'hui. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Je te demande de visiter mes amis ce soir, afin de leur donner une grande foi, Seigneur, de leur donner un renouvellement de force dans leur confiance qu'ils mettent en toi. Et puis tous ceux et celles qui entendront d'une manière ou d'une autre, eh bien, cette formidable parole de Jésus-Christ Sauveur, tu leur fais du bien, tu les bénis. Et tu leur donnes, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, afin que, quelles que soient les morsures, quelles que soient l'exposition à toutes sortes de venins pernicieux, toxiques, ils puissent s'approcher de Jésus et crier à Christ pour qu'il les guérisse, qu'il les délivre. Lorsque nous sommes menacés, lorsque le diable essaie de nous reprendre ce que tu nous as donné, lorsqu'il essaie de nous faire vaciller, lorsqu'il nous fait tituber, Seigneur, eh bien nous voulons rester fermes et inébranlables. Puisque ta parole nous dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu nous bénis ce soir au nom de Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.